Sanhedrin, Tzadik Gimel Amud Bet. Alors vous prenez deux lignes avant la fin. Non. Non, trois lignes avant la fin. Trois lignes avant la fin où il écrit Ve'af al Daniel, chez Gadol, Mimenu, Siper. D'accord ? C'est-à-dire, on dit ici des reproches contre Néhémia, qui a dit du mal des chefs du peuple qui étaient avant lui. Et alors on dit, il n'a pas simplement parlé contre n'importe qui, il a même parlé contre Daniel. Ve'af al Daniel, chez Gadol, Mimenu, Siper. Et pourquoi est-ce qu'en fait Néhémia a-t-il jugé nécessaire de dire du mal de Daniel ? Vous savez pourquoi il a fait ? Par sionisme. C'est-à-dire que Néhémia était le gouverneur de la Judée sous la domination perse pour reconstruire les murs de Jérusalem. Daniel était également vice-roi du roi perse, mais il est resté en galoute, lui. Alors ça explique la tension qu'il y a entre Néhémia et Daniel. Maintenant, d'où est-ce que nous savons que Daniel était plus grand que lui ? Voilà, c'est ça la question que se pose la Gemara. Uminalan de Gadol Mimenu. D'où savons-nous que Daniel était plus grand que Néhémia, dirtiv, car il est dit. Veraiti ani Daniel levadi et amaré. Moi seul, Daniel, j'ai vu la vision. Veraanashi macher ayu aimi, loraou et amaré. Et les hommes qui étaient avec moi n'ont pas vu la vision. Aval, cependant, Harada Gedola Nafla Alehem, une grande terreur tomba sur eux, Vaivrecho Behave, ils se cachèrent, ils s'enfuirent pour se cacher. Et il y a une vision que Daniel a sur le fleuve Hidekel, le tigre, et puis ça fait peur à tout le monde, bien que Daniel est le seul à voir ce qui se passe. Il voit des anges, n'est-ce pas ? Mais les autres qui sont avec lui s'enfuient. Qui sont les autres ? Ve anashim asher hayu imi lorao et amare. Uman ninhu anashim. Qui sont ces hommes ? Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Yirmiya, Veitemar Rabbi Chaya Baraba. Rabbi Yirmiya nous dit, et d'autres disent que c'était Rabbi Chaya Baraba, Ze Haggai, Zecharia ou Malachi. Il s'agit des trois prophètes, Haggai, Zecharia ou Malachi. Donc si Daniel a un avantage sur des prophètes, à plus forte raison qu'il a un avantage sur Néhémia. N'est-ce pas ? Donc nous savons que Daniel était grand.
Bien que sa prophétie ait lieu de Koutlaret.
Exactement. Il n'était d'ailleurs même pas vraiment prophète, mais enfin, il a quand même un avantage sur les prophètes qui sont avec lui. Voilà, ça c'était la dernière page, et maintenant vous allez vous distribuer la nouvelle page. Bon, je sais que c'est un effort surhumain, sur le plan physique. Elle n'est pas une différence. Inhu adife mine. Eux ont un avantage sur lui. Veihu adif minayu. Lui a un avantage sur eux. Inhu adife mine. Il est plus grand que. Ils sont plus grands que lui. Pardon. Deinhu nevié. Car eux sont prophètes. Haggai, Zecharia et Malachi. Veihu lavnavi. Tandis que lui n'est pas prophète. Donc vous voyez que Daniel n'est pas considéré comme un prophète. Bien que deux pages plus loin, on dit que c'est un prophète. Il y a donc une controverse entre les Chachamim pour savoir si Daniel est à mettre au nombre des prophètes ou pas. C'est un débat également chez les Rishonim. Entre le Rambam et... qui c'est l'autre ? J'ai oublié. Bon, voilà. Bon, oui ?
Mais si vous voyez mieux que les prophètes, vous saurez que c'est un prophète, non ?
Non, il y a des choses qu'on voit mieux que les prophètes. Par exemple, la Gemara dit « Chacham adif minavi ». Le prophète, le sage a un avantage sur le prophète. Exemple de cela, par exemple, le Rav Kook dit, les prophètes pendant 1000 ans ont prophétisé et ont dit aux enfants d'Israël que ce n'était pas bien d'être idolâtre. À quoi ça a servi ? À rien. Le peuple a continué à être idolâtre. Le temple a été détruit, Israël part en exil, il n'y a plus de prophète. Brusquement, le peuple cesse d'être idolâtre. Qui a fait le miracle? Les Chachamim. Donc on voit que les Chachamim n'ont pas le niveau de vie des prophètes, mais ils sont plus efficaces.
Mais là, ce n'est pas la question. Là, il a vu des choses.
Il a vu des choses.
Donc c'est de la névoie, ça.
Oui, mais ça peut être de la vision mystique. C'est justement parce que parfois, quand on a une vision faible, je pense que tu y connais en histoire de Dieu, on peut voir des choses on peut voir une résolution plus petite. C'est-à-dire, Daniel a l'avantage, justement parce qu'il n'est pas prophète, de voir des choses que des gens plus grands que lui ne peuvent pas voir. C'est-à-dire, quand la lumière est éblouissante, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est un avantage de ne pas très bien voir.
Et pourquoi il n'est pas considéré comme prophète? Parce qu'il voit des choses?
Parce qu'il voit des petites choses. C'est un mystique. Il a des intuitions, il a des révélations. Il y a des chachamim comme ça, qui ont le roi Hakodesh, qui voit des choses, etc. Ce n'est pas des prophètes. Ve'ehu adif minayu, ve'ehu haza, ve'ehu lo haza. Mais lui est préférable à eux, puisqu'il voit et qu'eux ne voient pas. Ve'ehi me'ahar de la hazu ma'ita ma'ivrut. Et puisqu'ils ne l'ont pas vu, alors pourquoi ils ont eu peur? Afalgav ve'ehu la hazu. Mide, bien qu'ils n'aient rien vu, mazalahu hazé, leur mazal a vu. C'est quoi le mazal? C'est leur ange tutélaire. C'est-à-dire, on pourrait dire leur subconscient. Ils ont vu ça. Amar Ravina, Ravina a donc en tiré une conclusion. Haïman demivait, si quelqu'un a peur, afalgav de oula hazé, mazalé hazé. Cela veut dire que bien qu'il ne voit pas le danger, il a le pressentiment. Vous savez, par exemple, on dit que pour le tsunami qui a eu en Indonésie, enfin non pas en Indonésie, en Thaïlande, il y avait dans des îles de l'océan Indien, il y avait des populations primitives qui se sont enfuies avant que ça se passe. Ils ont pressenti que quelque chose allait se passer. Et également des animaux. Oui, des animaux, mais il y a aussi des tribus primitives. C'est intéressant, on se demande, bon, aujourd'hui ça commence à être étudié, on dit qu'il y aurait un sixième sens, quelque chose qui les avertit, etc. Donc il y a parfois des pressentiments, ça existe.
En regardant les animaux.
En regardant les animaux, c'est aussi possible. C'est une des explications, effectivement. Oui. Ouais. Enfin, il y a d'autres théories, j'ai vu dans le journal. Enfin, bon, bref. On dit qu'il y aurait une partie du cerveau dans la région frontale qui serait responsable de ça. Maïta Kanate, alors que faire quand on a peur? L'inchof midurte arba garmide. Il faut se déplacer de 4 coudées. 4 coudées, c'est-à-dire un peu moins que 2 mètres. 1,92 m plus précisément. Vous vous déplacez et alors tout va mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au même endroit, on change de position. Il faut voir les choses entre eux. Méchané Makob, Méchané Mazal, c'est ça. Mais imaginez par exemple, vous êtes dans une situation où vous dites qu'est-ce qu'on va faire, tout va mal, etc. Ben, vous regardez les choses sous un autre angle et vous voyez que tout peut s'arranger. C'est ça? Une question de voir les choses d'une autre manière. Vimkai iname likre kriyat shema, ou bien il peut lire le schéma, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, qui est Dieu, Dieu est un, donc il s'occupe de tout. Vika Yukomatinofet, il est dans un endroit sale, donc on peut faire le schéma. Leima Ari, qu'il dise ainsi. Iza debe tabahash mina minai, les chèvres de l'abattoir sont plus grasses que moi. Donc c'est-à-dire que les forces malfaisantes s'attaquent aux chèvres de l'abattoir et pas à moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes psychologiques qui permettent de surmonter la peur. Tout ça, c'était simplement pour arriver à l'essentiel, qui est le test que nous commençons ce soir. Le marbe hamisra ul shalom enketz. C'est un verset du prophète Yeshayahu. Qui parle de quoi? D'abord, ça veut dire quoi? Le marbe hamisra ul shalom enketz, ça veut dire pour celui dont le pouvoir est abondant et qui porte une paix éternelle. C'est qui a un abondant pouvoir et une paix éternelle? C'est Mashiach. Ça va? Le Mashiach a un pouvoir abondant et il amène une paix éternelle. Donc il y a un verset de Yeshayahu qui parle du Mashiach. Maintenant, si vous regardez le texte de Yeshayahu, il ne parle pas du Mashiach, il parle du roi Hizkia, Ézéchias. Le roi Hizkia était l'arrière-petit-neveu de Yeshayahu. Et Yeshayahu était donc un prophète vénérable qui en avait vu pas mal dans sa vie. Et il s'occupait de l'éducation de son arrière-petit-neveu qui allait devenir roi. C'était un enfant. Et ça a pas mal réussi puisque quand Hizkia est arrivé au pouvoir, il a renversé les hauts lieux, il a aboli l'idolâtrie que son père Achaz avait introduit dans le pays. Enfin bref, Hizkia c'était un bon roi. très religieux d'ailleurs, d'après la Guémara dans un autre endroit, du temps de Chizkia, on a fait une enquête depuis Dan jusqu'à Beersheba. On a vu qu'il n'y avait pas un enfant, garçon ou fille, qui ne connaissait pas les règles de Touma et Tahara. C'est-à-dire, c'était le grand rêve rose de chasse. C'est-à-dire, il a investi tous les deniers publics dans l'éducation toranite. Voilà. C'est-à-dire, et d'ailleurs, d'après ce que disent les prophètes, de son temps, les champs étaient en friche, parce que les gens ne s'occupaient que de Torah. Et donc, c'était interdit, quoi, Chizkia. N'est-ce pas? Et Yeshayahu dit de lui, eh bien, il sera le Mashiach. Voilà. Il est roi, beaucoup mieux que le Rabbi Lubavitch, donc il est déjà roi, il est religieux, il accomplit la Torah, ça sera lui le Mashiach. Les Marbe Hamisra, ou le Shalom Enket, Al-Kissé David, le Mamlarto, etc. etc. Et bon, le Mashiach, ce n'est pas simplement la Torah qu'il étudie, il a également un message universel. Donc, du temps du Mashiach, il doit y avoir également une conflagration avec l'humanité. D'abord une conflagration militaire, ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et puis après, ça devient un enseignement universel, un rayonnement universel du Mashiach. Donc, du temps de Chizkiyahu, il y a eu également un événement similaire. Il y a eu une guerre gigantesque, à l'échelle mondiale pour l'époque. C'était la guerre entre Sanhérive, qui était empereur d'Assyrie, qui s'est attaqué à Jérusalem. C'est pas? Donc ça, et finalement, Chizkiyahu a eu la victoire. Donc ça aurait pu être la guerre de Gog et Magog. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Assyriens dominaient tout le monde cultivé de l'époque, ce qu'on appelle le Proche-Orient antique. Et ils vont s'attaquer à Jérusalem avec une armée immense, d'après la Guémara. Par la suite, on verra que la quantité de soldats était absolument incroyable. Si on fait le calcul de la Guémara, on arrive à 2,6 milliards de soldats. 2,6 milliards de soldats. C'est énorme. Ah, évidemment, ce n'est pas vrai historiquement. C'est-à-dire, oui, c'est pas possible. Simplement, la Guémara, quand elle donne des chiffres de ce genre, elle explique quelle est la grandeur de Sanhérive. C'est le chiffre qu'il méritait. Parce que 2,6, c'est un multiple de 26. Et 26, c'est le Shema Vaya, et comme il lutte contre Dieu, alors évidemment, il a un nombre de soldats qui est un multiple de la guématria du nom de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Bon, en tout cas, le fameux Sanhérive emmène l'humanité contre Chizkia. Et après, il y a la victoire. C'est merveilleux. Alors, ce que dit ici la Guémara, dernier point avant de continuer, si vous regardez dans le Tanakh, le mot « lemarbé » pour celui qui abonde à Misra de pouvoir, dans le mot marbé, le même est un même final. Contrairement à ce qui est imprimé ici, mais dans le texte du Tanakh, vous verrez, il y a un même final au milieu du mot. Phénomène unique dans toute la Bible. Il y a un phénomène inverse dans le livre de Néhémia, où il y a un même ouvert à la fin d'un mot.
C'est une erreur d'imprimerie ?
Oui, bien sûr. C'est évidemment une erreur d'imprimerie. À moins qu'il y ait une intention. N'est-ce pas?
L'âme, la même bête, rabais.
C'est comme ça écrit, l'âme rabais. Et c'est quoi l'âme? Ça veut dire que Yeshayahu a voulu dire quelque chose, et puis, bon, ça s'est fermé. Le même était ouvert, et il s'est refermé. Même, c'est l'initiale de quoi?
Mashiach.
Ça veut dire qu'il a voulu dire de Chizkia, il sera le Mashiach. Et puis, on lui a fermé la bouche, là. Tu veux pas dire. Alors, c'est ce que dit la Guémara. Amar Rabbi Tanchum disait, Darash Bar Kapara Betzipori, Bar Kapara a enseigné dans la ville de Tzipori, Mipnema kol mem shebeem tzateva patuar veze satum. Pourquoi est-ce que tout mem qui est au milieu d'un mot est ouvert, tandis que celui-ci est fermé? Réponse, Bikesh Akadosh Baruchu lasot Chizkiyahu Mashiach. Dieu a voulu faire de Chizkiyahu le Mashiach. Vesanheriv, Gog ou Magog, et faire de Sanheriv la guerre de Gog et Magog. Donc l'histoire aurait pu être achevée déjà à l'époque, il y a 2700 ans, tout aurait pu s'arranger. Et donc on serait aujourd'hui dans le bonheur. On n'aurait pas besoin, par exemple, de ramasser des sommes pour finir le faux plafond du Beit HaKnesset, par exemple. Vous vous rendez compte? Ça aurait été merveilleux. C'est une allusion fine, justement, pour inviter là. Bon. Petite remarque, on vous promet Blinéder, c'est que quand on continue, on commence d'abord par la partie des femmes. Hein, voilà. Hein, voilà. Bon. Alors continuons. Donc, Sanhérive aurait dû être Gog ou Magog. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, et d'abord, essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé vraiment à l'époque. Sanhérib dominait donc le monde entier, également le royaume de Judée. C'est-à-dire que le royaume de Judée n'était pas indépendant. Il était sous souveraineté, il était en fait sous protectorat du mandat assyrien. Et donc, si on veut, Hizkia agissait comme gouverneur au nom de l'empereur d'Assyrie sur la Judée. Et un jour, Hizkia s'est révolté, il a cessé de payer le tribut, et Sanhérib arrive avec une armée immense jusqu'au pied de Jérusalem. Il ne va pas directement à Jérusalem, il s'empare d'abord des villes fortifiées de Juda, entre autres de la ville de Lachish. Nous avons des fresques dans le palais de Sanhérib qui ont été retrouvées dans les fouilles archéologiques qui montrent le siège de Lachish et les prisonniers qui sont faits. Une fois qu'il a fini de conquérir toutes les places fortes de Yehuda, il arrive à Jérusalem et il se moque de Hizkia. Il lui dit « Même si je te donne 1000 chevaux, tu n'auras pas de cavalier pour les enfourcher. » C'est-à-dire la situation était dramatique. Que fait Hizkia? Il n'a pas le choix, il va faire la prière. Il va dans le Beth Amikdash, il prie et il rentre chez lui. Il va dormir. Moi, j'aurais pas dormi. Enfin, lui a été dormi. Et il passe la nuit, le matin il se lève, il ouvre les tricipes, il voit 185 000 cadavres de l'ennemi. Il y a eu une épidémie, l'ange de Dieu est passé dans le camp, et donc Sanhérib, dépité, quitte Eretz Israël, il rentre en Assyrie, et il se fait assassiner par ses enfants. Voilà, c'est comme ça que ça finit. Donc c'est une victoire gigantesque. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, la Judée est arrivée à l'indépendance. Il y a eu donc leur fête d'indépendance. Yom HaAtzmaut, n'est-ce pas? Et donc, ça aurait dû être le moment du Mashiach, dit la Gemara. Et puis, pourtant, non. Que s'est-il passé? Amra Midat Hadin Lifne Akadosh Baur. La rigueur, la Midat Hadin, s'est présentée devant le Saint béni soit-il. Ve Amra. Amram Midat Hadin Akadosh Baur. Ribono Shel Olam. Maître du monde. Uma David Melech Israël Shamar Kamashirot Tishbachot Lefanecha Loa Sito Mashiach. Alors que le roi David, qui a dit tant de louanges devant toi, il a dit le Hallel, il a dit le Tehilim, le livre, 150 chapitres de Tehilim, c'est David qui les a dit. Tu ne l'as pas fait, Mashiach. Hizkia, Sheasit Alokola Nissim Alalu, Velo Amashira Lefanecha, Taasu Mashiach. Hizkia, à qui tu as fait tant de miracles et qui n'a pas dit devant toi de cantique, tu vas le faire, Mashiach. Les Rav Nistatem, c'est pour ça que ça a été fermé. C'est-à-dire, il n'est pas devenu Mashiach. C'est-à-dire, l'option a été écartée et dilapidée. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. D'abord, ce qu'on reproche à Hizkiyahu, c'est de ne pas avoir dit le Hallel pour son indépendance. À tel point que sa potentialité d'être le Mashiach a été dilapidée. Et alors là, se posent des questions énormes. Pourquoi Hizkiyahu n'a-t-il pas dit le Hallel? Et j'irai plus loin. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave de ne pas avoir dit le Hallel au point que c'est ça qui le disqualifie? Par exemple, on propose ici le roi David comme Mashiach, n'est-ce pas? David était présidentiable. Et lui, le fait qu'il y ait l'histoire de Bathsheba, ça ne dérange pas. Tu peux être le Mashiach même si tu as ton problème de Bathsheba. Mais toi qui es très religieux, beaucoup plus que le roi David, tu n'as pas dit le Hallel, vlan, écarté. Ça demande d'être expliqué pourquoi c'est tellement important, alors que c'est finalement une faute de liturgie. Il n'a pas dit le Hallel, bon, ben ça va.
Hein? À Karatoda,
d'accord, alors, il n'a pas été reconnaissant, je veux bien, mais quand même, il y a d'autres choses dans la vie.
Je ne crois pas au Mashiach.
Comment, lui-même est Mashiach? Il est roi d'Israël, il est roi de Dieu, et on lui fait des miracles.
S'il ne fait pas le lien entre un fait de, on va dire, politique,
oui,
et un fait, en fait, s'il ne le relie pas à Dieu, s'il n'en fait pas un fait religieux, s'il ne lit pas les deux choses,
oui,
c'est la négation du Mashiach.
Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a ici une négation, effectivement, de l'essence même du messianisme. Le messianisme étant un phénomène politique, et lui, il refuse de sanctifier le phénomène politique, l'indépendance, alors il ne veut pas être Mashiach. C'est vrai. Mais est-ce que c'est bien sûr que c'est à cause de ça qu'il n'a pas voulu dire le Hallel? Là et là, je voudrais rentrer plus dans le détail.
Ça paraît bizarre, non? Il a prié Dieu pour...
Il a prié.
Donc c'est un homme qui sait
prier. Oui, bien sûr.
Mais il ne sait pas dire merci.
Le pire de ça, quand il a été malade et que finalement, Dieu lui a rajouté 25 ans de sa vie, alors il a remercié. C'est-à-dire, il a fait un cantique pour le remercier d'être sauvé de la maladie. Et là, il n'a pas voulu. Il y aurait beaucoup de choses à apprendre sur Hizkia. Il est tout à fait probable, enfin, je vais vous donner trois interprétations possibles. La première interprétation, c'est que Hizkia, effectivement, considérait qu'un phénomène d'ordre politique n'a pas de sainteté. C'est que ce n'est que de la politique. C'est-à-dire, on étudiait la Torah avant, on continue à étudier la Torah après. Il n'y a rien de changé. Il y avait une position un peu semblable à cela, c'était celle du professeur Leibovitch, qui était d'ailleurs sioniste et qui avait lutté pour l'indépendance d'Israël, mais qui considérait que ça n'avait aucune valeur religieuse. C'est-à-dire, il disait, ne mélangez pas. La sainteté avec le politique ce n'est que du politique, c'est du hol. Et la sainteté, ça concerne la vie religieuse. Point à la ligne. D'accord ? Et ça correspond un peu, disons, à l'état d'esprit de Hizkia, puisque effectivement, il a rempli le royaume d'Israël, le royaume de Juda, il l'a rempli de Torah. Donc il avait des raisons religieuses de ne pas dire le Hallel. D'accord ? C'est la raison, la première raison. Une petite remarque d'ailleurs, et là je pose déjà ce problème. Ce texte entre en contradiction flagrante avec un autre texte. Dans la Gemara dans Pessahim, il est dit en toutes lettres que Hizkia a dit le Hallel lors de la chute de Sanhérib. Avec ou sans bracha, aucune importance. Mais il l'a dit. Il a dit le Hallel. Alors pourquoi est-ce que. Ici on dit qu'il ne l'a pas dit. D'accord ? Je donnerai la réponse tout à l'heure. Rappelez-moi la question. Hein? Sans bracha, ça c'est, ouais, c'est l'idée de Yosef. Mais bon, c'est possible qu'il a dit sans bracha. Mais peut-être qu'il n'a pas dit le soir.
Et pas au Betamida.
Oui. Non, mais je vais vous donner une autre réponse tout à l'heure.
Peut-être qu'il a dit le Hallel pour remercier Dieu du miracle.
Non, vous savez quoi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire.
On arrête de vous le dire.
Et bon, c'est une réponse que va donner le Rav David Ben Ezra. C'est-à-dire que le mot Shira, qui désigne le Hallel, parfois la Gemara dit Shira, parfois elle dit Hallel. Alors, ce qui est écrit dans Pessahim, c'est qu'il a dit le Hallel, mais il n'a pas dit Shira, ce qu'on dit ici. C'est-à-dire qu'il a dit le Hallel pour s'acquitter de son devoir. Il y a un devoir religieux de dire le Hallel quand il y a une libération. C'est écrit dans Maseret Pessahim, on l'apprend depuis la sortie d'Égypte, qu'il y a une mitzvah à chaque fois qu'on sort d'une servitude de dire le Hallel, donc il l'a dit. Mais il n'a pas dit de tout son cœur. Il n'arrivait pas à s'identifier à cela. Il dit, je le dis parce qu'il faut le dire. Et on peut dire que c'est un peu cette histoire de Sambracha, comme tu l'as dit. Et il n'est pas plein de ça. Or, pour être le Mashiach, il faut être plein de ça. C'est-à-dire il doit s'identifier plus avec le peuple qu'avec la Torah. Or, lui s'identifie avec la Torah plus qu'avec le peuple. Ça, si vous voulez, c'est la première des trois interprétations que je donne. Pourquoi est-ce que Hizkiyahu n'a pas voulu faire le Hallel? Il y a une certaine logique à ça. C'est-à-dire, on voit dans le traité de Berachot que Hizkiyahu ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il savait, par le Ruach HaKodesh, qu'il serait des Rechaim, c'est-à-dire qu'il transgresserait la Torah. Donc il a peur de ça. C'est-à-dire, quand il y a une transgression de la Torah, ça l'embête. C'est ça qui l'embête, Hizkiyahu. Pas indépendance ou pas indépendance. La deuxième interprétation, c'est que, imaginez ce qui se passe. Hizkiyahu se lève le matin, il fait des Tilat Yadai, Birkot HaShachar, il ouvre les Trissim, et il voit 185 000 cadavres. Quel effet ça vous fait, ça? Horreur, n'est-ce pas?
Comment dire le Hallel? Ah, si on dire le Hallel lorsqu'on voit le 16e.
Ah, voilà, on ne peut pas dire le Hallel puisque nos ennemis sont tombés.
J'ai vu, j'ai le Pessah, vraiment.
Oui, c'est ça. Il a trouvé toutes les sources en question. On ne peut pas dire le Hallel quand les œuvres de Dieu sombrent dans la mer. Donc, on ne peut pas dire le Hallel. Donc, il avait lu dans Yabia Omer qu'on ne peut pas dire le Hallel à Yom HaAtzmaout. Parce que lors de la guerre d'indépendance, il y a eu des goïms qui ont été tués par nous.
Et moi, c'est ça, pour la sortie d'Égypte, on a bien dit le Hallel.
Mais bien sûr.
Alors que les chrétiens
de Hallel. Non, pas chez lui, chez Pétain.
Ah oui ? Oui, mais on le dit un jour. C'est-à-dire, on ne le dit pas 7 jours, on dit un jour. C'est ce que dit le Midrash, le fameux Midrash que tout le monde cite. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la feuille de Shvi Shel Pessah, vous avez certainement lu, le Midrash qui dit qu'on ne dit pas le Hallel à Shvi'i Shel Pessah parce que les Égyptiens ont sombré dans la mer. On le lit mal. Le Midrash ne dit pas comme ça. Le Midrash dit que comme les Égyptiens ont sombré dans la mer, on ne dit le Hallel qu'un seul jour et pas sept. Donc il faut le dire un jour. Pourquoi il faut le dire? Parce qu'ils ont sombré dans la mer. C'est-à-dire, on se réjouit de la chute de nos ennemis, mais pas trop. C'est-à-dire, on ne peut dire le Hallel à Yom HaAtzmaout qu'un seul jour et pas sept. D'accord. Ne dites le Hallel à Yom HaAtzmaout qu'un seul jour. Et là, c'était quoi la Yitziat Mitzrayim? Je veux bien. Parce qu'on a été libéré. Oui, mais on a été libéré à quel prix? Les premiers-nés d'Égypte, je crois que... Quick, non? Hein? Je crois. La nuit même de la sortie d'Égypte. Et ça ne nous empêche pas de dire le Hallel. Donc, cet argument qu'on ne peut pas dire le Hallel parce que les ennemis sont morts, c'est faux. D'ailleurs, si vous voyez bien le texte dans la Gemara, dans Megillah, Dieu a dit aux anges de ne pas réciter le cantique. Et il a demandé à Israël de réciter le cantique. C'est-à-dire, cette réprimande de Dieu, ne dites pas le cantique à cause de mes créatures qui sombrent dans la mer, il s'agit d'une réprimande adressée aux anges, pas aux hommes. D'accord? Bon, enfin, donc, on peut dire que Chizkiyahou est également un homme très préoccupé des sentiments de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, bien que le peuple était dans la réjouissance, Chizkiyahou sentait la douleur du Créateur, et donc il ne pouvait pas dire le Hallel. Conclusion, il ne peut pas être le Mashiach, parce que le Mashiach doit être du côté des Juifs, pas du côté de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième interprétation. C'est-à-dire que c'était un excès d'humanisme. La première interprétation, c'est un excès de religiosité. Dans la deuxième interprétation, c'est un excès d'humanisme. Troisième interprétation. Chizkiyahou voulait dire le Hallel, mais... Du temps de Chizkiyahou, il y a eu un malheur. Vous savez quel malheur il y a eu? Il y a eu la destruction du royaume de Samarie. À l'époque de la Bible, Eretz Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du sud, c'était Yehuda, avec comme capitale Jérusalem. Et le royaume du nord, c'était le royaume d'Israël, avec comme capitale Shomron, Samarie. Du temps de Chizkia, quand Sanhérib est venu faire la guerre, il a détruit le royaume de Shomron. Et les juifs de Shomron ont été déracinés de leur maison, ils ont été vidés de leur maison et jetés ailleurs. Alors Chizkiyahou dit, bon, moi, c'est vrai que moi j'ai été sauvé. Mais quand je vois qu'on sort des juifs de chez eux, je ne peux pas dire le Hallel. Donc il y a eu...
Un pinouille.
C'est ça, c'est le pinouille. C'est pour des raisons nationalistes qu'il ne peut pas dire le Hallel.
Tant que c'est pas parfait, je peux...
Tant que c'est pas parfait. C'est comment? On jette des juifs de chez eux et tu veux que je dise le Hallel? Non, pas...
On a besoin d'un être, en général, on a besoin d'un être quand on est en
Afghanistan. Oui, bien sûr, alors.
Donc, s'il y a un être, l'Afghanistan, elle est plus difficile, elle est plus
difficile. Oui, la Sakana pour Yehuda.
Oui, la Sakana, c'est marrant, c'est...
Oui, mais lui était malheureux pour ses frères de Samarie.
D'accord, on dirait le Valais.
On dit quand même le Valais. Oui, mais ah oui, ça, exactement. C'est-à-dire qu'il il attend vraiment un monde parfait pour dire le Hallel.
Parce qu'à Pessah, les 4 cinquièmes du peuple sont morts en Égypte.
Aussi, oui, si on prend le Midrash Kipchuto, oui.
On ne pourra jamais dire Hallel, il y a toujours exactement. Une guerre, il y a des morts.
Exactement.
Alors
ça prouve que Chizkiyahou a tort. C'est-à-dire, les arguments que l'on soulève, que l'on élève pour ne pas dire le Hallel, sont faux, quels qu'ils soient. N'est-ce pas? Donc, on voit bien que Chizkiyahou a eu tort. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que il n'a pas voulu dire le Hallel. Maintenant, je viens à la deuxième question que nous avons posée tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? C'est pourquoi c'est cette faute-là, plus qu'une autre, qui disqualifie le Mashiach? Alors pour ça, j'ai besoin de faire une petite introduction. Vous savez que le Mashiach a pour rôle de régler les problèmes, n'est-ce pas? Tout le monde dit, quand viendra le Mashiach, tout ira bien. Ça veut dire que le Mashiach règle tous les problèmes. Quand est-ce qu'on commençait les problèmes? Depuis quand est-ce qu'il y a des problèmes? Depuis toujours? Non. Depuis la faute du premier homme. C'est pas toujours. Ça fait seulement 5767 ans, c'est tout. Avant, il n'y a pas de problème. Mais depuis la faute d'Adam Harishon, il y a des problèmes.
Avant, c'est quoi? C'est 4 heures, 5 heures?
Oui, mais enfin, ce n'est pas des heures comme chez nous.
Ouais, c'est des heures.
C'est des heures métaphysiques. En tout cas, donc, s'il y a un rôle au Mashiach, il doit également corriger la faute d'Adam Harishon. Combien de fautes Adam Harishon a-t-il fait? Deux.
Il s'est marié une fois, donc une faute.
Il a fait deux fautes. La première, soyons en passant, quelle est la plus grave faute de quelqu'un? La première ou la deuxième?
La deuxième.
La deuxième est toujours plus grave, parce que c'est la récidive. La première faute, vous la connaissez, c'est qu'il a mangé du fruit de la connaissance. N'est-ce pas? Dieu lui a dit, ne le fais pas, il l'a fait. Donc, il y a une faute. Mais c'est la première. La deuxième, c'est quoi? Hein? Il a accusé sa femme. Ça, c'est-à-dire quand il dit, Haïcha, Asher Natata, Imadi, Natali, Minaet, Vaorel, la femme que tu as mis avec toi, que tu as donnée avec moi, c'est elle qui m'a donné à manger du fruit. Que dit Rashi? Kam, Kafar, Batova. Il a eu un moment d'ingratitude. Donc, la plus grave des fautes de l'homme, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce qui peut réparer la faute d'ingratitude? La gratitude. Et donc, c'est le Hallel qui doit réparer ça. Donc c'est bien, ça fait partie, c'est un rôle central dans la fonction du Mashiach. C'est-à-dire, il doit être capable de reconnaître que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui agit dans les événements. S'il ne le fait pas, il y a ingratitude, donc la faute du premier homme n'est pas réparée. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, c'était pour ça que c'était si grave. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire quand on vient à la prière de Yom HaTzmaout, on achève la création du monde. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Hein? Non. Et pour devenir Mashiach, il faut le faire. Donc vous êtes candidat. Tous ceux qui viennent à la prière sont candidats. D'accord? Alors inscrivez vos noms, parce que quand on cherchera quelqu'un pour être le Mashiach, ben, il faudra savoir qui était venu à la prière de Yom HaTzmaout. D'accord? Et... Mais il faut approfondir un peu ça. Je voudrais aller plus loin. Quelle est la seule chose que Dieu ne peut pas faire?
Réparer le taquet.
Non, il peut réparer.
Il fait tout ce qu'il fait est bien. Donc, non.
Ah, il pourrait. Hein? Quelle est la seule chose que le Créateur ne peut pas faire?
Se craindre lui-même.
Hein?
Faire en sorte que l'homme fasse de lui-même.
Oui, mais quelle est la chose qu'il n'y a que l'homme, que seulement l'homme peut faire?
Remercier.
C'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle Yirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. Alors, la crainte du ciel, ça peut être interprété de deux manières. Soit c'est nous qui avons la crainte du ciel, soit c'est le ciel qui a crainte. La crainte qu'a le ciel. C'est quoi la crainte qu'a le ciel? C'est de tomber sur la tête des gens. C'est-à-dire... oui, absolument. C'est-à-dire que il y a, vous savez, il y a un midrash qui dit que lorsque Dieu a créé le firmament, alors à chaque fois l'eau, parce que le firmament il sépare l'eau des eaux, eh bien l'eau retombait. Et ça, à chaque fois, et Dieu séparait et ça retombait, jusqu'à ce qu'il a poussé un cri. Il a poussé un cri et alors le ciel a été transi. Et à cause de cette terreur qu'a le ciel, il ne tombe pas. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim. C'est un enseignement que j'ai entendu de la bouche du Rav Shushna dans cette synagogue, soit dit en passant. Et ouais. Oui, c'est ça, bien évidemment. Non, c'est Goscinny. Verzo, c'est celui qui a fait le Hegel. Il a dessiné. Hein? Dessinateur, oui. Et donc, non, mais il faut comprendre que quand les Gaulois disaient qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, c'était pas n'importe quoi. Ils avaient ce qu'on appelle l'Ira Tchamay. C'est-à-dire qu'ils avaient la crainte d'être confrontés à des valeurs. C'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment, les Français républicains, ils transforment ça en image d'Épinal. Donc, pour en revenir, la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire, c'est dire merci. C'est-à-dire, quand on donne un cadeau à quelqu'un, on ne peut pas lui donner également de dire merci.
Il n'y a jamais de merci. Tu ne dis jamais merci dans le Tanakh? Jamais personne au Delecha?
J'ai pas, jamais vu ça.
Jamais. Hein.
Non, jamais vu ça. Mais, et donc, c'est la seule chose qui peut venir de la créature. Et donc, le parachèvement de la création se fait, justement, par le remerciement. Et donc, c'est pour ça qu'on reproche à Hizkia de ne pas l'avoir fait. Oui? Vous nous obligez à le faire. Oui, mais alors, ça, là, ça prend du temps. Depuis Hizkia, il y a quand même 2700 ans qu'ils ont passé. D'accord ? Ça n'a pas été facile. Mais enfin, c'est-à-dire que si... on voit par exemple dans la sortie d'Égypte le même phénomène. Dieu dit à Moshe, voilà maintenant, je vais accomplir ma promesse avec les Avot. Quelle était la promesse ? De leur donner la terre de Canaan. Et il leur dit, voilà, je vais vous faire sortir. Et on a les quatre, ce qu'on appelle, paroles de libération. Arba l'échelot shel Geoula. Quand il dit... je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous libérerai et je vous prendrai comme peuple. Et après, il y a une cinquième expression, et je vous amènerai dans le pays. Eh bien, la cinquième expression, eh bien, Dieu ne l'a pas accomplie. Puisque la génération qui est sortie d'Égypte, ils sont morts dans le désert. Alors comment est-ce que Dieu peut-il promettre la génération du temps de Moshe en Eretz Israël et finalement il ne le fait pas ? C'est que entre la quatrième et la cinquième parole, il y a une condition qui est posée. C'est quoi la condition ? Vidartem ki ani Hashem, hamotzi etrem mitachat tzibot Mitzrayim, veveti etrem el haaretz. C'est lorsque vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, que je vous amènerai dans le pays. Donc il y a une condition, reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la Géoula. Or ça ne peut pas venir d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que ça vienne de l'homme. Et on peut se tromper. C'est-à-dire quand on sort d'Égypte, alors on interviewe les Hébreux, on leur dit, voilà, monsieur l'Hébreu, vous êtes en direct sur TF1, vous sortez d'Égypte, qui vous a fait sortir d'Égypte ? Et bien la réponse, c'est Pharaon. Moshe. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas une évidence de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait sortir. Exactement, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas évident. Si les Hébreux avaient été le sujet même du miracle, alors ils n'auraient pas eu de problème à dire. C'est pas une chokma, il n'y a rien de surprenant à dire merci à Akadosh Baruch Hu quand il fait un miracle évident. Mais quand ça se fait par un intermédiaire que c'est caché, c'est là qu'il y a l'épreuve. N'est-ce pas ? L'épreuve, c'est de voir justement que ça se passe par des voies où Dieu est caché et dire que c'est quand même Dieu qui l'a fait.
Dans la Haggadah, c'est écrit exactement le contraire.
Qu'est-ce qui est écrit dans la Haggadah ?
Ani velo malach.
Oui, mais ça, c'était pour les Égyptiens. C'est s'agit de Makat Bechorot. Quand Dieu a frappé les premiers nés d'Égypte, nous, on était à la maison. On n'a rien vu. C'est-à-dire que. Hein ? Oui ? Oui, ils ont râlé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même quand on est dans... Alors, à plus forte raison, quand le miracle n'est pas vraiment visible. Donc, il y a toute une chorma. Il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. Soit dit en passant, pour l'histoire de la mer Rouge, d'après l'interprétation du Malbim, la manière dont ils interprètent les versets, les enfants d'Israël n'ont pas vu qu'ils traversaient la mer. C'est-à-dire que d'après ce que dit le Malbim, et c'est comme ça qu'il interprète le verset, le sol de la mer, le fond de la mer s'est soulevé, et donc les Hébreux ont continué à marcher. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de traverser la mer.
C'est
ça ? Ah, quand ils ont vu les morts. C'est ça. Mais après coup. Après coup. C'est-à-dire, quoi ? Darshan, oui, il a compris, mais pas l'ensemble du peuple. Bon, regardez ce que dit le Malbim là-bas, c'est très surprenant. La manière dont il explique le texte, il dit que le sol s'est soulevé, et donc, pour eux, il n'y a pas eu de problème. Ils ont continué à marcher comme si c'était la route. Oui, alors c'est pas comme ça que c'est pas comme le Malbim. C'est comme le Malbim. D'accord ? Et. Enfin, le Malbim aussi, c'est quelqu'un. Hein. Oui. C'était un Roumain. De Roumanie, le Malbim. Oui. Oui, pourquoi est-ce qu'on disait ? Ah oui. Et donc, il y a ici l'épreuve. Vidartem ki ani Hashem. Il faut que vous sachiez que c'est moi qui vous fais sortir d'Égypte, et alors je vous amène sur la terre. D'accord ? Il y a d'ailleurs. Mais on peut effectivement nier ça. C'est-à-dire, on peut très bien dire l'État d'Israël a été fondé par le Palmar. C'est un argument qui peut être amené par des chilonim comme par des datim. Et les chilonim diront comment ? Vous n'allez quand même pas penser que c'est Dieu qui a créé l'État d'Israël puisque c'est le Palmar qui l'a fait. Et les religieux diront enfin, c'est quand même pas Kadosh Baruch Hu qui a fait l'État d'Israël puisque c'est le Palmar. Alors, en fait, c'est le même argument mais présenté d'une autre manière. C'est une certaine vision de mentalité. Et donc, c'est ça l'épreuve de Hizkiyahu. L'épreuve de Rizkiyahu, c'est de reconnaître la main du Créateur dans ce qui se passe.
Alors pourquoi Rizkiyahu n'a pas fait le halal finalement? Par raison? Pour une raison politique?
Une des trois raisons.
C'était pas lui. Donc il l'a fait exprès.
Oui. D'ailleurs, il y a.
C'est volontaire son
son refus, oui, bien sûr. Il y a même un midrash qui dit que Yeshayahu lui a dit de dire le halal.
Il est tellement fort, il a le potentiel d'être Mashiach, il rate sa vocation pour ne pas dire le halal. Il est capable de rater sa vocation.
Oui, bien sûr, parce qu'il est religieux. Ou bien humaniste. Il a toujours ses raisons. On a ses raisons de ne pas dire le halal.
Trop nationaliste. Hein? Ou bien trop nationaliste.
Trop nationaliste aussi.
S'il voit un arrière-petit-fils.
Vous ne savez pas le dire. Ça, faut pas le dire.
S'il voit un de ses descendants faire une faute.
Oui.
Donc c'est que le Mashiach n'est pas venu.
Oui, c'est-à-dire que s'il avait accepté de faire le halal, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce problème.
C'est ça.
C'est ça. Oui.
S'il n'a pas été le Mashiach, c'est-à-dire que la prophétie de Yeshayahu s'est trompée.
C'est-à-dire que la prophétie de Yeshayahu a été différée. C'est-à-dire tous les versets que Yeshayahu a attribués à Hizkia restent vrais pour le Mashiach. N'est-ce pas? Par exemple, il y a un verset qui est amené dans la suite des paroles de Yeshayahu quand il dit... Vous réciterez le Hallel lors de la victoire. Il le dit en toutes lettres. Hashir yé lachem kelalit kadesh hag. Vous réciterez un cantique comme le soir de la fête sainte. La Gemara dit comme le soir du Seder. Et après, quand la Gemara amène ce verset dans plusieurs endroits, elle interprète ça comme se référant au Hallel qu'on récitera en sortant de Galout. C'est-à-dire tout ce qui a été dit pour Hizkiyahu est détourné de son chemin et s'adresse à Yom HaAtzmaut.
D'accord. S'il faut en parler, c'est quand même bizarre cet argument de trop nationaliste. Comment ça se fait qu'il ne dit pas le halal parce qu'il est trop nationaliste?
Parce que ça ne va pas assez bien pour lui. Puisqu'il y a eu justement le déracinement des juifs de leur terre.
Il y a eu la
Hitnat Kout.
Mais ça veut dire, s'il dit le halal, dans 5 minutes tout le monde sera revenu.
Oui, mais pour dire le halal, il faut être convaincu que ce qui s'est passé est grand. Or, il n'est pas convaincu justement. À cause des difficultés du temps.
On ne peut pas dire le halal à Tzad Balfour, alors chaque fois qu'il y a un événement...
Ah oui, alors il y a un problème, par exemple.
C'est ça la question, c'est que, est-ce que vous êtes pas... La question sacrédite, c'est que ça va, 48, c'est pas finalement...
Oui, alors il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé en 48. Est-ce qu'en 48, il y a eu Géoula ou pas? Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par... Il faut avoir une définition de la Galoute pour avoir une définition de la Géoula. La définition de la Galoute, c'est la servitude politique. Conclusion, la Géoula, c'est la dépendance politique. Qui sait de ce que je sors ça? Eh bien, de la Gemara, de la Mishnah et du Maharal de Prague. D'accord? Et du Rambam. Il faut bien avoir une définition. D'ailleurs, je veux dire, il y a eu très longtemps, il y avait un mauvais juif qui est allé voir les rabbins du Sanhédrin et qui leur a dit: vous autres, les pharisiens, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de l'oppression des Romains.
On ne dit pas
pharisiens,
on dit
Jésus. Qui a dit ça.
Hein?
C'est Jésus.
Bien sûr. Et vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de l'oppression des Romains. Mais moi, je suis venu pour m'occuper des armes. Réponse des rabbins, c'est très intéressant, mais dans ce cas-là, tu es en dehors de la tradition. Tu ne fais plus partie du judaïsme. C'est-à-dire, ça témoigne bien. C'est-à-dire, le fait que les rabbins aient refusé Jésus, c'est justement à cause de ça. Parce qu'ils ne voulaient pas admettre la dimension politique dans la Géoula. Oui? Non, ça dépend du peuple, il faut bien avoir un roi. Hizkia n'aurait pas été roi si le peuple n'avait pas accepté son pouvoir. Alors justement, c'est un problème. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça à sa place? Ça c'est la question. C'est une très bonne question, n'est-ce pas? C'est ça que tu poses. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça à sa place? Il ne veut pas dire le Hallel. Tant pis, mais nous on va dire à sa place, n'est-ce pas? Alors regardez ce que dit la Gemara. Miyad patra haaretz ve'amra lefanav. Alors, la terre s'est mêlé du débat et a dit devant lui: Ribono shel olam, maître du monde, ani omeret lefanecha shira, moi je vais réciter le halel tahat tzadik ze, à la place de ce tzadik, va asehu mashiach, et fais-le mashiach. Miyad patra aret patra ve'amra shira, elle a ouvert la bouche et a dit un cantique lefanav devant lui, shenemar, ainsi qu'il est dit: mikenaf aret, des confins de la terre, Zemirot Shamanu, nous avons entendu un cantique. Tsevi la tzadik, pour faire la volonté du juste.
Aret, c'est qui, c'est le peuple?
Alors justement, qui c'est le Aret qui a dit le Hallel? C'est le peuple. Ça veut dire que Hizkiyahu n'a pas voulu, mais le commun du peuple, lui, a dit le Hallel. Ils ont senti naturellement qu'il fallait le dire. Alors ils l'ont fait. Ils ont organisé une prière au Kotel. quoi. Alors justement, non, c'est pas évident, puisque on voit que la terre se propose à la place. N'est-ce pas? Et on voit d'ailleurs, il y a une réaction des anges. Amar, Sara, Olam, Lefanav, le prince du monde a dit devant lui. C'est-à-dire, il y a un ange qui est préposé au monde. C'est-à-dire, Ribono, Shelola, maître du monde. Tiviono, Asse, Letzadikze, fais la volonté de ce juste. C'est-à-dire, puisque la terre, c'est-à-dire le peuple a dit le Hallel, ça peut te faire que lui n'ait pas dit. Yatza, Batkol, une voix s'est fait entendre. Ve'amra, et a dit, Razili, Razili. C'est mon secret, c'est mon secret. Ça veut dire qu'il y a un secret qui fait que ça dépendait de Hizkia et pas du peuple. Ça, c'est la question que tu poses. Une seconde. C'est pas fini. Doucement. Amar Navi. Alors, le prophète a répondu. Oili, oili, admatai. Malheur à moi, jusqu'à quand? Alors, jusqu'à quand il va falloir attendre maintenant. Puisque Hizkia a manqué le coche, alors on va attendre jusqu'à quand? Yatza batkol ve'amra. Une voix s'est fait entendre et a dit. Bogdim bagdou, veget bogdim bagdou. C'est-à-dire, les traîtres ont trahi. C'est une trahison de traîtres, leur trahison. Bon. Ve'amar rava, ve'itema rabbi yitzhak. Alors, que veut dire ce verset? Ad deatu bazoze, ou bazoze de bazoze. Jusqu'à ce que viennent les déprédateurs et les déprédateurs de déprédateurs. Ça veut dire, ce que dit le prophète, c'est que si du temps de Hizkiyahou, bien que le monde n'était pas encore mûr pour la Géoula, le roi s'était élevé au niveau de dire le Hallel, ça aurait suffi. Mais comme il ne l'a pas fait, il faut attendre que le monde mûrisse. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait destructeurs et les destructeurs des destructeurs. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait deux temples détruits, le premier temple et le deuxième temple, et alors on pourra se contenter du peuple même si le roi ne le fait pas. C'est-à-dire même si le dirigeant spirituel ou politique n'a pas conscience de ce qu'il faille dire le Hallel, si le peuple le dit, ça suffit. Mais du temps de Hizkia, ce n'était pas encore le moment. C'était exceptionnel. Si Hizkia lui-même s'était élevé à ce niveau-là, ça aurait suffi.
On n'a plus besoin du Mashiach.
À la limite, plus besoin du Mashiach. Effectivement, ça veut dire qu'il y a un moment où le Mashiach a un rôle de marionnette. On dit « Efes viltecha limot ha Mashiach ». Personne n'agit à ta place du temps du Mashiach. C'est-à-dire que le temps messianique est un temps où le dirigeant est insignifiant. 3%. Popularité zéro. Sure. Vous avez vu, quelqu'un a sorti une sorte de tract comme ça. Ça représente un billet de 20 shekels. Mm-hmm. Tu as eu?
J'ai reçu.
Ah, tu as reçu. Génial.
En email.
Ouais, enfin, moi, je l'ai vu. sur une... Vous l'avez pas vu?
Non.
Ah, ça vaut son pesant d'or, ça. C'est une sorte d'affiche comme ça, billet de 20 shekels, et vous avez la photo de notre premier ministre, et à la place du 20, il y a zéro. Vous avez vu ça? Hein? C'est une intuition messianique, ça s'appelle ça. C'est-à-dire cette idée?
Hein? 18h45.
Marqué quoi?
Quoi?
18h45. Zéro.
Shekel.
Ouais.
C'est un billet de zéro shekel avec la photo de.
Ah ouais,
on va acheter zéro.
Hein? On va acheter le pouvoir. Ouais. Bon.
Excusez-moi.
Oui.
D'où sait-on?
Oui.
On ne doit pas attendre une manifestation miraculeuse, justement pour qui est indépendance, à l'aide, etc. Parce que là, il y a quelque chose comme...
Je vais poser une question. D'où sait-on qu'il faut attendre une opération miraculeuse?
Apparemment, par tradition.
Sortir ah bon
d'Égypte, encore une fois là.
Ah bon? Alors, dans ce cas-là, les Hashmonaïm n'étaient pas bécédaires. Les Hashmonaïm sont libérés des Grecs, sans demander l'avis de personne. Comment? Après? Il dit qu'il faut attendre qu'il y ait un miracle. Les Hashmonaïm, ils n'ont pas attendu, ils ont fait la guerre. De quel droit? Et Bar Kokhba, quand il a été encouragé par Bar Kokhba à se révolter contre les Romains, il n'y a pas eu de miracle?
Une indépendance après 2000 ans, c'est pas un miracle?
Non, il demande, il voudrait quelque chose de surnaturel.
C'est quoi le surnaturel?
Le surnaturel, c'est que les lois de la nature sont brisées. Alors là, il dit, il n'y a pas eu de briseur des lois de la nature.
Une des lois de la nature, c'est qu'un peuple de 500 000 personnes arrive.
Ouais, mais ça, c'est possible, en principe.
Bah, c'est une fiole d'huile aussi, hein.
Bah,
on n'était pas mis en garde. Mais enfin, non, mais j'aimerais. C'est quand tu dis qu'il y a une tradition, comme quoi il faut attendre un miracle, non, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu as tiré cette tradition.
Non, c'est-à-dire que. On pourrait dire, par exemple, que.
Que. Vas-y, vas-y.
Que de la même manière que. Voilà, Priscaou s'est isolé, il a prié.
Oui. Eh ben, nous aussi, on a prié pendant 2000 ans, on a prié que ça vienne. Et d'ailleurs, le Ramban dit que lors de la troisième libération, ça se fera à la manière du temps de Koresh, avec l'autorisation des goïms. Ce qui s'est passé exactement lors de la déclaration Balfour. N'est-ce pas ? Et de la conférence de San Remo qui a fondé le foyer juif national en Palestine sous mandat britannique.
Quand on lit Ezra, ça se passait plus ou moins pareil.
Oui, mais avec une différence. C'est que Ezra n'a pas accédé à l'indépendance. Il a fallu attendre l'époque des Hashmonaïm. Tandis que de nos jours, on a eu également l'autorisation du Cyrus de l'époque, c'est-à-dire Balfour, et on a eu également, finalement, l'indépendance politique, en 48. D'accord ? Je ne vois pas donc de quelle tradition, à quelle tradition tu te réfères.
Non, ça.
Il y a un texte surprenant du Shla. Oui, non, mais il y a un texte du Shla, particulièrement fascinant. Il demande pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait jeter Abraham dans la fournaise. Eh bien, il dit, c'est très simple. Abraham était à Babel. Or, Abraham connaissait toute la Torah, donc il connaissait également l'opinion de Rav Yehuda dans la Gemara, qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir de Babel en Eretz Israël. Donc, si Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, quand il est à Ur Kasdim, va-t'en en Eretz Israël, il a dit, non, moi je fais la halakha comme Rav Yehuda. C'est ce que dit le Shla. Alors, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Il l'a fait jeter dans la fournaise pour qu'il soit obligé de partir de Ur Kasdim et arriver à Haran. À Haran, Dieu lui dit, va-t'en en Eretz Israël. Haran, c'est pas en Babel, donc il peut partir. Et c'est pour ça qu'il a été jeté dans la fournaise. Et dit le Shla, ou Maase Avot Siman Labanim. Horrible, hein ? Quand on pense à Yom HaShoah, c'était pas il y a longtemps. C'est ce que dit le Shla. Bon. Donc, il y a des mauvaises traditions ici. Bon. Quand Abraham a fait son alia, il n'y avait pas de miracle. Bon, continuons. Hein? Oui, mais c'est pas pour ça qu'il est parti en Eretz Israël, il est venu partir en Haran, justement. Il s'est enfui à Haran. Bon. Massa, Douma, alors ça c'est la suite des versets dans Yeshayahu. Massa Douma Elai Kore Miseir. L'oracle de Douma m'appelle de Seir. Shomer, Mamilaila, garde, qu'en est-il de la nuit? Shomer, Mamilail, garde, quand finit la nuit? Hugo. Quoi? Hein? Oui, c'est-à-dire, on demande aux gardes. Alors la nuit finit? On demande aux gardes, aux Shomer. Quand est-ce que ça finit? Mami Laila, qu'en est-il de cette nuit? Cette nuit est très longue. On attend qu'elle finisse. Hein? Alors justement, c'est ça que ça ne comprend pas. En tout cas, le prophète dit, j'entends un oracle qui vient de Seir, l'oracle de Douma, qui vient de Seir, pour me dire qu'en est-il de la fin de la nuit. C'est des paroles sibyllines. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan nous explique, Oto malach amemune ala ruchot, l'ange qui est préposé aux esprits, Douma Shmo. Il s'appelle Douma. Ça veut dire quoi, Douma? Le silence. Évidemment, les esprits des morts sont silencieux. Donc, l'ange préposé au Neshamot s'appelle Douma. Ça? Alexandre Douma. Nitkabetsu kol aruchot etzel Douma. Tous les esprits se sont réunis chez Douma. Amroulo, ils lui ont dit, Shomer, garde, puisque c'est lui le gardien des âmes. Mamilaila, qu'en est-il de cette nuit? Shomer, Mamilel. Et la réponse, Amar Shomer. Le garde a dit, c'est-à-dire c'est Douma qui répond, l'ange qui va répondre. Tout ça c'est à cause de Chizkia, hein? C'est à la suite de ce qui s'est passé. Ata Boker Vegam Laila. Le matin est venu et la nuit aussi. Ça veut dire qu'il va avoir encore une galoute. Imtivayun be'ayu. Si vous le voulez, voulez. Shuvu etayu. Revenez. Venez. C'est-à-dire faites teshuva.
C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'accélérer la Géoula, mais il faut faire Teshuvah.
Et c'est Teshuvah, il était risqué, ils étaient en pleine Torah, on a dit.
Oui, alors c'est quoi la vraie Teshuvah? C'est revenir en Eretz Israël.
Bah, ils étaient en Eretz Israël.
Non, mais après, il faut ramener les 10 tribus perdues, etc. Il y a des choses à faire. Tana, comment?
Les trois choses devant lesquelles il a chuté, les trois choses pour lesquelles il n'a pas dit la lettre.
C'est ça, oui. Alors chacun, selon, on ne sait pas exactement quelle était la bonne parmi les trois, mais enfin les trois sont possibles. Tana Mishum Rabbi Papias. On enseignait au nom de Rabbi Papias. C'est un bureaucrate. Il s'occupait des papiasseries. Gnaihu Lechizkiyahu Vesiato. C'est quelque chose de condamnable pour Hizkiyah et ses amis, c'est-à-dire le Sanhedrin. Shelo amru shira ad shepatra haaretz v'amra shira. Qu'ils n'ont pas dit de cantique jusqu'à ce que la terre se lève pour dire un cantique. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, miknaf haaretz zemirot shamanu tsevil hatzadik. Puis des confins de la terre, nous avons entendu un chant à la place du tzadik. Kayotse badavar. Donc c'est-à-dire qu'on reproche aux dirigeants spirituels et politiques de ne pas avoir été aussi intelligent, aussi compréhensif que la masse. La masse sait qu'elle doit dire le Hallel, et eux n'ont pas compris qu'ils doivent dire le Hallel. Kayotse Badavar Ata Omer, soit dit en passant, tout ce texte, nous l'étudions aujourd'hui parce que c'est dans la suite de l'étude. C'est-à-dire que c'est un pur hasard, une pure coïncidence, si c'est tombé juste avant Yom HaAtzmaout, ça faisait partie du plan de l'étude.
On aurait pu étudier le 12 juillet, par exemple.
Par exemple, oui, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait faire un drapeau bleu-blanc-rouge dans la synagogue, ça nous amènerait de l'argent. Bon, Kayotse Badavar Ata Omer, il nous voit la même chose. Vayomer Yitro, Yitro dit, Baruch Hashem Asher Itzil Etchem, béni soit l'Éternel qui vous a sauvé. C'est-à-dire quand Yitro arrive au mont Sinaï et qu'il entend ce qui s'est passé, il dit Baruch Hashem, béni soit Dieu. Il fait la bracha. Et il ne dit pas seulement le Hallel, il dit la bracha. Tana, Mishum Rabbi Papias. On enseignait à ce propos aussi, au nom de Rabbi Papias, Genai hu le Moshe. C'est condamnable. Pour Moshe, Veshishim Ribo, et les 600 000 qui étaient avec lui. Shelo Amru Baruch, ils n'ont pas dit béni soit à Kadosh Baruch. Ad Sheba Yitro Vamar Baruch Hashem. Jusqu'à ce que Yitro vienne le dire. C'est le témoin extérieur qui le comprend. Alors, ça veut dire quoi? Moshe n'a pas compris qu'il fallait dire Baruch Hashem. Ça veut dire que Moshe attendait que quelqu'un de l'extérieur le dise. Mais c'est en soi quelque chose de condamnable. C'est-à-dire que c'est un manque qu'il y a en Israël de n'être que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et donc, il y a ici... il faut réparer ça aussi. C'est-à-dire, non, il ne faut pas simplement dire le Hallel, il faut le dire à temps. Ne pas attendre. Vayihad Yitro. Alors si déjà on parle de Yitro, on dit Yitro s'est réjoui. Alors que veut dire le mot Vayihad? Rav Shmuel, nous avons une controverse, Rav Amar, She'evir, Cherev, Hadal, Besaro, Vayihad veut dire quelque chose déguisé. C'est-à-dire qu'il a fait passer un couteau aiguisé sur sa peau, c'est-à-dire qu'il a fait la circoncision. Shmuel Amar, Shena Asa, Hidudim, Hidudim, Kol Besaro. Et par contre, Shmuel dit, c'est qu'il a fait, il a eu la chair de poule. C'est-à-dire qu'il a eu un tremblement quand il a entendu ce qui s'est passé avec les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il a eu de la peine pour les Égyptiens. Amar Rav, Hainu. D'Amritche, c'est ce que disent ce que dit le proverbe, Giora ad Asara Dare, Lot Vase Aramai Kame. Chez un converti au judaïsme, ne dit pas du mal, n'humilie pas un non-juif en sa présence jusqu'à la 10e génération. Donc, voilà, ça c'est, si vous voulez, ce qui concerne le Hallel que Hizkiyahu aurait dû dire et qu'il n'a pas dit. Baruch Adonai l'Olam, Amen v'Amen. Vous êtes invité d'ailleurs à dire le Hallel au Kotel lundi soir. Nous le faisons ensemble, beaucoup de monde. Ça sera bien, ça sera chouette. Allez, à bientôt. Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer. Akasha Baruch Hu. Les accords d'Israël. Les gens arrivent à la Torah, vous savez, chez les marins, on a fait, c'est un petit pro, il y a une Torah, il y a dire.